silence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour à nos chers auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Bon, on est quand même encore en télétravail, donc... Et j'espère que ça va fonctionner. Voilà, parce que c'est pas très pratique. Mais bon, on y arrive quand même. Bon, ben, tu vas bien? Ça va toi, Damien?
Oui, ça va très très bien. Et donc, toujours en cette période de confinement où les cinémas sont fermés, on vous propose, du moins Anne vous propose, toutes les semaines, un panel de 7 films. 7 films à regarder, un par jour, donc puisés dans la grande vidéothèque mondiale des films qui sont sortis au cinéma à travers le temps. Et on va commencer aujourd'hui avec un film sorti en 1945, un film de Jean Becker qui s'appelle Falbala.
Eh oui, oui, c'est Falbala. Alors Falbala, c'est un... Enfin, c'est pour la petite histoire avant de parler. En fait, c'est le film préféré, il en a souvent parlé d'ailleurs, de Jean-Paul Gaultier, le styliste, le grand couturier. Et il en a parlé dans des documentaires et il a même un petit écran, un écran dans son atelier, enfin l'atelier où il travaillait, puisque là maintenant il a un petit peu arrêté, mais quand il donc préparait ses collections et son travail, il avait donc un petit écran et il se passait le DVD de Falbala. Il se le passait tout le temps, quasiment. Il en a souvent parlé. Pas parce que c'est un film qui se passe dans le milieu de la couture, mais parce qu'il aime, voilà, il aime ce film. Et il a une prédilection pour Falbala. c'est assez amusant. Alors Falbala, ben c'est quoi Falbala? Ben, c'est une comédie dramatique, c'est romancé également, hein, et c'est un film de Jacques Becker. Alors Jacques Becker, qui nous a quittés en 1960 à 53 ans, eh oui, il a eu une grosse maladie, ça a été très rapide, il était très jeune quand même. Et c'était son premier grand film, Falbala. Il est le père, il est le père du réalisateur Jean Becker. Alors Jean Becker qui maintenant, son petit garçon, il a 87 ans quand même. Mais on le connaît, hein, on le connaît Jean Becker. Voilà, donc c'était quand même Jacques Becker, il a par exemple qu'est-ce qu'il a? On lui doit en 1943 un film qui est sublime, moi que je trouve sublime, Goupy Main Rouge, hein, avec Fernand Ledoux et Robert Le Vigan. Il y a Blanchette Brunois également. Et puis on lui doit en 1951 Édouard et Caroline. Adorable, c'est un film absolument adorable, avec Daniel Gélin et Anne Vernon. En 1952, alors là, le grand film que tout le monde connaît, on lui doit donc Casque d'or, avec Simone Signoret et Serge Reggiani. Et puis en 54, bon voilà, hein, pour citer quelques films, très très connus, il a donc réalisé « Ne touchez pas au Grisby ».« Touchez pas au Grisby », c'est avec Jean Gabin, Lino Ventura. Pareil, quoi, un polar extraordinaire que je regarde, moi, très, très, très souvent. J'aime beaucoup. Voilà, donc on lui doit tout ça. Et là, on est sur Falbala. Alors Falbala, je disais, hein, ça se passe dans le monde de la couture, de la haute couture. Philippe Clarence, c'est un célèbre couturier parisien qui est aussi connu pour ses multiples conquêtes féminines. Lorsqu'il séduit la fiancée de son ami Daniel, celle-ci tombe immédiatement sous son charme. Et pour la première fois de sa vie, Philippe aussi. Mais son amour pour la jeune femme se transforme vite en folle passion. C'est... Et oui. Bon, ben, on va pas... Évidemment qu'on ne va pas parler de ce qui se passe, voilà, et comment ça se termine. C'est une comédie dramatique, donc il y a forcément du drame. Alors, dans les rôles principaux, on a Raymond Rouleau. C'est lui, le grand couturier. Alors, Raymond Rouleau, c'est assez amusant parce que beaucoup l'ont comparé à Michel Piccoli. Son jeu, en fait, hein, pas lui, mais son jeu, a été comparé à celui de Michel Piccoli à ses débuts, enfin, quand il était jeune. Ouais, Raymond Rouleau. On a Micheline Prel, la délicieuse Micheline Prel, qui joue donc la fiancée qui va tomber amoureuse de ce couturier. On a Gabriel Dordia et Jeanne Fusier-Gir. C'était des acteurs qui étaient très très célèbres à l'époque, hein, et qui travaillaient beaucoup. Donc c'est... Alors bon, moi je suis un peu comme Jean-Paul Gaultier, hein. C'est un film que je regarde assez souvent, que j'aime beaucoup, que je trouve très beau. Donc, Falbala.
Ça s'appelle donc Falbala. Et nous continuons avec un film de la même époque, sorti et réalisé par Richard Wallace. Ça s'appelle Sinbad le Marin.
Sinbad le Marin, oui. C'est sorti en janvier 1947. Ah. Alors, j'ai pris la deux... j'ai pris... deux films des années 40, parce que je voulais aussi un petit peu passer dans les films d'aventure. Un peu, il y a du fantastique, mais c'est de l'aventure, c'est très beau, hein, Sinbad le Marin. C'est certainement un des plus beaux dans ce genre. Et c'est un film, oui, tu l'as dit, donc, de Richard Wallace. Alors, Richard Wallace, c'est un réalisateur, producteur américain. Il est, on lui doit quand même des très, très beaux films, comme Nid d'espion, par exemple, en 1943, film d'espionnage avec O'Hara.
Avec qui ce film d'espionnage, on t'a pas entendu?
John Garfield.
D'accord.
C'est un grand acteur de l'époque. Et Maureen O'Hara, okay. La belle actrice aux longs cheveux roux, qu'on connaît, qu'on a vu dans pas mal de très beaux westerns. Maureen O'Hara, qui était une grande actrice de l'époque également. Nid d'espion. Très, 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 très beau film. D'espionnage. Et là donc, l'histoire de Sinbad le Marin. Alors, Sinbad, il y a eu beaucoup de films, hein, sur Sinbad le Marin. Il y en a eu énormément. Certains, d'ailleurs, beaucoup plus fantastiques que celui-là, avec des effets spéciaux. À l'époque, étaient très, très bien faits. Il y en a eu, au moins 5 ou 6, hein, films sur Sinbad le Marin. Alors, dans l'Orient des mille et une nuits, Sinbad navigue à la recherche de la célèbre île au trésor de Deryabar. En route, il fait la connaissance de l'envoûtante Shirin, qui espère se servir de l'aventurier pour mettre la main sur le fabuleux trésor. Et là, alors, dans les rôles principaux, c'est pareil. Alors, il y a un côté rêve, parce que on a Douglas Fairbanks Junior, puisqu'avant il y avait Douglas Fairbanks le père, qui lui a commencé dans les films de cinéma muet. Hein, il avait son père, et donc après, il lui ressemble terriblement, d'ailleurs, le fils. Douglas Fairbanks Junior. Et on a également, dans le rôle de Shirin, Maureen O'Hara. Et oui, c'était une actrice qui était très demandée à l'époque. Et on a Anthony Quinn aussi, qu'on connaît quand même, hein, un grand acteur également. Sinbad le Marin. C'est très très beau. C'est en fait, il y en a eu... crois. Oui, il y a eu le septième voyage de Sindbad, c'était en 1958. Il y a eu le voyage fantastique de Sindbad en 1974. En 1977, c'était Sindbad et l'œil du tigre. Il y a même eu un dessin animé d'ailleurs qui est sorti en 2003 des studios Disney. Voilà, Sindbad, la légende des sept mers. Ils sont tous très beaux, ils sont... Voilà, c'est ce... Sindbad, vraiment, est un personnage qui est très attachant, toujours représenté sous des traits... c'est un bel homme, voilà. Hein, donc, c'était toujours des acteurs très beaux qui jouaient le rôle. Hein. Et il est, évidemment, c'est un héros. Sindbad le marin. Moi j'aime beaucoup, hein, j'avoue, j'aime beaucoup ce genre de film. On ne voit plus dans ce genre-là. Des Sindbad, je crois. Hein. Sindbad le marin. Tous les acteurs sont assez formidables d'ailleurs. Absolument. Tout. Même les seconds rôles. Et oui.
Très bien.
C'est le deuxième.
Et donc maintenant, on revient en France avec un film de Jean Delannoy qui s'appelle Maigret, oui. L'affaire Saint-Fiacre, sorti en 1959.
Et oui, Maigret, l'affaire Saint-Fiacre. Alors c'est un des préférés, moi, ça, de Maigret, d'ailleurs, qui a été aussi, tourné très très souvent avec des acteurs différents. Mais là, Maigret, l'affaire Saint-Fiacre avec Jean Gabin, j'avoue que c'est mon préféré dans les histoires de Maigret. Alors, c'est le commissaire Maigret retourne dans sa ville natale. Pourquoi ? Parce que sa vieille amie, la comtesse de Saint-Fiacre, a reçu une lettre la menaçant de mort. Elle fait donc appel à lui, puisqu'il a passé son enfance dans ce village. Mais son arrivée n'empêche pas la comtesse de disparaître suite à un arrêt cardiaque. Convaincu que cette mort n'a rien de naturel, Maigret se lance dans cette enquête trouble. Voilà. Et c'est un... Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, j'avoue, là. Mais on le revoit rarement. Hein. Enfin, je ne l'ai pas encore revu, moi. Il repasse rarement. C'est pour ça que je l'avais mis de côté. Alors, il est réalisé par Jean Delannoy. Alors Jean Delannoy, c'est un réalisateur scénariste français. Alors lui, il est décédé en 2008 et il avait 100 ans, Jean Delannoy, quand il est parti. Eh oui, 100 ans. Eh oui, il était quand même, il était costaud. Le film, ah ben j'avais pas dit, mais le film dure 1h36. Alors Jean Delannoy, c'est pareil, il a fait des petits chefs-d'œuvre. On lui doit L'éternel retour en 1943 avec Jean Marais et Madeleine Sologne. Et le scénario est de Jean Cocteau. Bon, ça donne une idée quand même de la qualité de ce film. Ensuite, en 1946, il a tourné la Symphonie pastorale avec Michel Morgan et Pierre Blanchard. Très joli film aussi. Et puis en 1956, celui-là est très connu. Il a réalisé Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn et Gina Lollobrigida. Mais il est connu celui-là parce que celui-là par contre repasse assez régulièrement. Donc là voilà, là j'ai voulu parler un peu de Maigret. Alors dans le film, hors Jean Gabin, on a Michel Auclair. Qui était un grand acteur, Robert Hirsch également. Dans le rôle de la comtesse, on a Valentine Tessier, adorable comédienne, hein. Valentine Tessier. Ouais. Voilà. Voilà pour le Maigret.
Maigret, donc sorti en 1959.
Il est sorti, oui, en septembre 1959.
Et là, on fait un bond dans le temps et on se retrouve en 2004 avec Le secret des poignards volants. Alors, qu'est-ce que c'est ce film de secret de poignards volants ?
Eh bien, oui, alors là, j'ai voulu encore retourner un peu dans l'aventure. Alors, évidemment, tous ces films japonais, chinois et japonais, il y en a toute une escouade, hein, il y en a énormément. C'est le secret des poignards volants, on ne le revoit pratiquement jamais. C'est un de mes préférés, je reconnais. C'est un. Là, bon, on connaît un peu moins quand même les réalisateurs. Par exemple, celui-là, celui qui a réalisé les poignards volants, le secret des poignards volants, c'est Zhang Yimou. Alors Zhang Yimou, c'est un acteur réalisateur chinois. Il a 69 ans. Il est, on lui doit quand même des petites choses pas mal, comme par exemple en 1991, il a réalisé Épouse et concubine, c'est un film d'arts martiaux, mais qui a fait beaucoup de bruit. Vraiment. Il a très bien fonctionné. Et en 2002, un autre aussi qui a très bien fonctionné, Héros. Pareil, c'est des arts martiaux, mais c'est très très beau, très chouette, quoi. Donc celui-là, on a dit qu'il était sorti donc en 2004, novembre 2004. Alors il y a quoi? Il y a de l'action, il y a du drame, il y a de l'histoire aussi. Hein. Et c'est un film chinois et hongkongais. Donc c'est pas. Alors l'actrice principale, qui est magnifique, hein, elle est connue là-bas. Hein. Nous, on la connaît moins, mais c'est Zizi Zhang. Et on a aussi Gong Li, pareil, ce sont des actrices connues et qui sont magnifiques. Alors, c'est quoi? Parce que tu as demandé ce que c'était le...
Oui, je te le demande. Et je te le redemande.
Oui, ça se passe il y a très très longtemps. C'était en 859, oui. La Chine est ravagée par les conflits. La dynastie Tang, autrefois prospère, est sur le déclin. Et le gouvernement corrompu s'épuise à lutter contre les groupes de rebelles, toujours plus nombreux, qui se dressent contre lui. La plus puissante de ces armées révolutionnaires et la plus prestigieuse de toutes est la maison des poignards volants. Deux capitaines, Léo et Jin, sont envoyés pour capturer le mystérieux chef de cette redoutable armée. Il y a eu énormément de nominations d'ailleurs quand il est sorti. Magnifique. Alors, on connaît un peu, mes chéris, pour ceux qui connaissent quand même un peu ces films-là, chinois et japonais, d'arts martiaux, d'action, il y a des effets spéciaux extraordinaires. Hein. Des envolées, c'est fascinant. Hein. Vraiment, quoi. C'est quand même... on n'a pas trop ça chez nous, quand même, ce genre de cinéma, finalement. Non,
et puis, ils sont experts dans ce genre de kung-fu volant, ouais. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas leur reprocher.
Ah oui, non, mais c'est vraiment... on se laisse embarquer du début à la fin, vraiment, oui. 1h59. Ah oui, on ne s'ennuie pas. D'ailleurs, aucun des films que je viens de citer n'est ennuyeux, d'ailleurs, hein. C'est pareil. Hein. Moi, je reconnais que... Un film, pour moi, ne doit pas être ennuyeux. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit s'ennuyer quand on regarde un film. Si on s'ennuie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est qu'on n'est pas bien, c'est qu'il ne nous plaît pas. Il y a quelque chose. Normalement, on ne s'ennuie pas. Que ce soit un film qui dure 1h30 ou 3h, si ça file, si on ne pense pas au temps qui passe, c'est que ça marche, quoi. Eh oui. Alors ces films-là, les films que je viens de citer, là, en principe, on ne s'ennuie pas. On est pris du début à la fin. J'espère. Alors ensuite... Après le secret des poignards volants.
Après le secret des poignards volants, c'est un autre film fantastique que nous allons retrouver, Les Frères Grimm, une production de Terry Gilliam, un des Monty Python. Et oui. Que l'on retrouve, film sorti en 2005.
Tout à fait, en octobre 2005. Oui, il dure 1h59 également d'ailleurs. Alors là, c'est pareil, c'est de l'aventure, c'est du fantastique. Évidemment, c'est différent, hein, rien à voir avec les poignards volants, mais il y a beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux quand même, hein, très réussis. Alors Terry Gilliam, oui, comme tu as dit, oui, absolument. D'ailleurs, Terry Gilliam, il a 80 ans quand même maintenant. Mine de rien. Eh oui, finalement. C'est un Britannique et Américain. Il avait deux nationalités, hein. Il est Britannique et Américain. Et effectivement, tu as parlé du Monty Python. Oui, oui, en 1975, il est dans le Monty Python Sacré Graal. Puis on lui doit également, en 1981, Bandit Bandit, qui est chouette comme film avec Sean Connery et John Cleese. Hein. Et puis on lui doit en 1995, L'Armée des 12 singes, avec Bruce Willis et Brad Pitt. Oh. L'Armée des 12 singes, je crois qu'il est repassé un petit peu.
On lui doit...
Mais pas si souvent que ça, en fait.
On lui doit également Brésil et Las Vegas Parano.
Oui, tout à fait. Ah non, mais c'est un grand... Terry Gilliams, c'est un... attention, hein.
Eh oui.
C'est un grand, grand, grand réalisateur. Alors là, alors on a quoi là? Ouh, c'est une histoire extrêmement compliquée. Et ça se passe à l'aube du 19e siècle. Les frères Grimm étaient connus dans toutes les campagnes pour être les seuls capables de vaincre les esprits maléfiques et les créatures en tout genre qui épouvantaient les villages. Leur lucrative entreprise cachait cependant un petit secret. Jacob et Will se contentaient de combattre les monstres diaboliques que leurs complices animaient grâce à d'ingénieux trucages et d'impressionnantes mises en scène. Où les voyous ? Lorsque les autorités les obligent à se rendre à Marbaden, l'enjeu est tout autre. Le hameau vit dans la terreur absolue depuis que ses petites filles sont enlevées les unes après les autres. Cette fois, les frères Grimm n'ont pas affaire à une illusion. Avec la très belle Angelica, ils vont découvrir que la forêt lugubre renferme un terrible secret, un monde de magie et de sortilèges, peuplé des plus incroyables créatures. Il y a eu des nominations également. Ah oui, c'est pareil, il y a des effets spéciaux extraordinaires. Alors on a Matt Damon dans le rôle de Wilhelm Grimm, et dans le rôle de Jacob Grimm, on a Heath Ledger. Alors, Heath Ledger, je ne sais pas si on se souvient de lui. Il est décédé très jeune, eh oui. Parce que je crois qu'il était, il se droguait, et qu'il y a eu un souci avec ça, quoi. Et en fait, il a disparu juste en 2008, l'année où il venait de terminer le tournage où il venait de terminer The Dark Knight, le Chevalier Noir, où il tenait le rôle du Joker. Et il a eu un prix, hein, après sa mort, il a reçu un prix d'interprétation pour ce rôle du Joker, parce qu'il était assez extraordinaire. Ledger. Eh oui. Et puis dans ce film-là, dans Les Frères Grimm, on a Monica Bellucci. Ouh, la belle Monica Bellucci. Mais qui n'est pas très gentille, qui n'a pas un rôle très très sympathique. C'est la reine du miroir. Et puis on a dans le rôle de Angelica, la jolie Angelica, on a Lena Headey, qui devient donc une amie des frères Grimm pour combattre le mal. Voilà, les frères Grimm. C'est chouette, c'est pareil, d'un bout à l'autre, on est pris. Voilà, c'est comme ça. C'est pareil, c'est...
C'est ça, les bons films d'action. Et maintenant, on se retrouve en France en 2005 également. Avec
revient chez nous.
Un film qui s'appelle Commis d'office.
Voilà, Commis d'office, oui, Commis d'office. Alors, c'est pareil, on le voit pas souvent. Moi, je trouve qu'il repasse pas assez souvent, presque jamais. Il est sorti donc en mai 2009. Et c'est un film d'Anne-Laure Kerr. Alors, Anne-Laure Kerr, c'est une réalisatrice française qui est très... très talentueuse, hein, vraiment, elle est scénariste, elle est actrice aussi d'ailleurs, et romancière. Et oui, elle a 57 ans, et elle a écrit La Daronne. La Daronne, dont on a parlé du film La Daronne il n'y a pas très longtemps, qui est sorti avec Isabelle Huppert.
Avec Isabelle Huppert, oui.
Eh bien, oui, eh bien, c'est tiré de son roman à elle. Et pour ce roman, La Daronne, elle a eu le prix du Polar européen, le Grand Prix de littérature policière, le prix Barry du livre de poche, le prix des lecteurs en 2017, en 2020, enfin bref, son roman policier a eu tous les prix possibles et imaginables. Et je comprends maintenant pourquoi on en a fait un film, effectivement. Hein, voilà. Donc, commis d'office, donc, on lui doit, non, parce qu'elle a surtout écrit, elle a quelques courts-métrages aussi, mais elle est surtout très, très romancière, donc, elle est plus tournée sur l'écriture. Donc, c'est quoi cette histoire commis d'office? Ben, c'est l'histoire d'Antoine Laoud, qui est un avocat, il a 40 ans, révolu, il est un avocat pénaliste enthousiaste, mais déçu par son milieu professionnel. Il traîne son âme de bon samaritain de commission d'office en dossier minable. C'est là, à l'occasion d'une plaidoirie, qu'il est remarqué par Henri Marsac, un avocat à la réputation sulfureuse. Ce dernier l'engage à ses côtés dans la défense des gros truands et le fait goûter aux fruits de sa prospérité. Laoud ne mettra pas longtemps à comprendre que l'engouement soudain qu'il suscite chez son confrère est loin d'être désintéressé et qui le conduira derrière les barreaux. Alors c'est, oui, on sait ce que c'est commis d'office. C'est un avocat commis d'office, si demain il nous arrive quelque chose, il t'arrive quelque chose Damien ou à moi ou à vous, mes chéris, pourquoi pas, et si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas assez de sous pour vous payer un avocat, eh bien, on vous en commet un d'office. Vous en avez un qui est commis d'office. Alors, évidemment, sans médire de ces avocats, bien sûr, il y en a qui sont certainement très doués, mais ils n'ont pas, effectivement, l'aura de tous les grands avocats qui coûtent très cher et qui arrivent à souvent à innocenter même les coupables, hein, et non pas ce sont souvent des avocats débutants d'ailleurs, commis d'office, mais qui peuvent être certainement très talentueux tout de même. Mais bon, hein, voilà, comme on n'y est pas passé encore et qu'on ne sait pas comment ça se passe, Dieu merci, on ne peut pas exactement connaître la valeur de ses avocats commis d'office. En tout cas, celui-là est très doué, Antoine Laoud, là, et il est joué par Roche Dizem. Roche Dizem, grand acteur. Oh là là, mais oui. Et puis on a Jean-Philippe Écoffet. Alors c'est lui, Henri Marsac, le vilain, là. Eh oui, qui l'utilise. On a aussi Mathias Melchus aussi dans le film. On le connaît, lui, alors je sais pas. Et on l'a vu dans pas mal de séries, Mathias Melchus, à la télévision. Si vous avez l'habitude de regarder les séries historiques, on le voit souvent. Puis on a aussi dans ce film Sophie Guillemin, très très bonne comédienne aussi. C'est un beau casting. De toute façon, jusqu'à maintenant, là, dans tous les films dont je vous parle, les castings sont impeccables. Bon, ça c'est important quand même, hein, évidemment. Voilà, alors commis d'office, ça dure 1h40. C'est vraiment, c'est très très, c'est un très bon film. Ben oui, Anne-Laure Kerr, la réalisatrice, en fait, c'est ça, elle avait réalisé 3 courts-métrages qui ont été très remarqués, qui ont été vraiment tout à fait remarqués, mais en positif. Et là, c'était son premier long-métrage. Une réussite, je trouve. Voilà. En tout cas, c'est pareil, on ne s'ennuie pas du début à la fin. C'est la même chose.
Et voilà. Terminer les films,
ça, c'était le sixième, n'est-ce pas?
C'est ça, oui. Et pour terminer les films d'aujourd'hui, ça va être une comédie d'Olivier Baroul, sa dernière jusqu'alors. Ça s'appelle
oui.
Non, c'est pas sa dernière. L'Italien, c'est sorti en 2010 et du coup, c'était son troisième réalisation.
Ben oui. Alors, en fait, j'hésitais, je ne savais pas trop, finalement. Toi, tu me dis 2011, oui. Mais je pense qu'il y a eu aussi... Je ne sais pas, je crois qu'en janvier 2011, en réalité, il est sorti en Allemagne. Ça a été sa date de sortie en Allemagne.
Moi, je te parlais de 2010.
En France, en 2011. Et en France, c'était en juillet 2010.
C'est ça. C'est sorti en 2010, c'est sûr.
Voilà. Et en Allemagne, c'était en 2011. Hein, voilà. On avait, parce qu'il a beaucoup plu chez les Allemands, ça c'est, voilà, ils ont beaucoup aimé, mais c'était quand même presque un an après. Alors oui, Olivier Barou, on le connaît, il a 56 ans, c'est un réalisateur, scénariste, un acteur, c'est un animateur radio, Damien. Quand est-ce que tu te lances dans le cinéma?
Pas encore.
Je te pose la question.
Pas encore.
Eh ben oui. Donc Olivier Barou, ben, il fait tout ça, oui. Alors qu'est-ce qu'on lui doit, lui, quand même? On va le situer un petit peu. Ah mais oui, en 2009, par exemple, on lui doit Safari. Safari, c'était avec Kad Merad et Valérie Benguigui. Valérie Benguigui, excellente comédienne, qui nous a quittés malheureusement en 2013. Eh oui, cancer du sein, voilà, Valérie Benguigui. Qui tournait beaucoup, qui était vraiment très talentueuse. Et puis, qu'est-ce qu'on lui doit? Ah oui, ben, en 2011, c'est lui qui réalise Les Tuches, la série Les Tuches. Ils en sont déjà, d'ailleurs, 1, 2, 3...
Ils vont sortir le quatrième. Le quatrième va sortir début 21.
Oui. 2021, la sortie du quatrième. Bon, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, apparemment, ça déplace les gens, ça déplace les spectateurs. Sinon, je pense qu'il n'en aurait pas fait quatre. Voilà, après, bon, chacun se fait son opinion. Mais voilà. Et puis, en 2019, il a réalisé Just Gigolo. Voilà. Avec Anne Charrier et Kad Merad. Eh oui, Kad Merad. Ben, ils sont très amis et Kad Merad a beaucoup de talent. Après tout, il le fait tourner, il a bien raison. Voilà ce qu'on lui doit. Et là, l'Italien. Alors, l'Italien. Ah, on va parler de Dino Fabrizi. Dino Fabrizi, c'est le vendeur numéro 1 de la concession Maserati de Nice. À 42 ans, il arrive à un tournant de sa vie. Le poste de directeur lui est ouvertement proposé et sa compagne, depuis un an, Hélène, a la ferme intention de l'épouser. Pour Dino, la vie est belle. Sauf que cette vie parfaite s'est construite sur un mensonge. Dino s'appelle en fait Mourad Ben Saoud. Ni son patron, ni Hélène, et encore moins ses parents, ne sont au courant de cette fausse identité. Dans 10 jours débute le Ramadan et Mourad, qui passe outre tous les ans, devra cette fois assumer la promesse faite à son père malade. Faire le Ramadan à sa place. Pour Dino, l'Italien, cela ne va pas être simple. Il y a une nomination. C'est pas mal, je trouve. Celui-là, je l'aime beaucoup, ce film, parce qu'il pose justement ce problème d'identité. Où on découvre que finalement, beaucoup de ces personnes-là, qui sont français, mais qui sont issus de pays musulmans, ont choisi de prendre, par exemple, un prénom français. Ont remplacé leur prénom d'origine par un prénom français. Et ça, c'est terrible. C'est terrible d'être obligé, effectivement, d'être dans un pays, d'être obligé de changer son prénom pour passer plus facilement un peu partout. Et surtout au niveau du travail. Et ça pose ce problème. Évidemment, c'est tourné en comédie, mais quand même. Il y a quelque chose de très émouvant là-dedans, je trouve, en même temps. Et Kad Merad s'en sort très très bien. Vraiment. Enfin, ils s'en sortent tous très bien. Mais pour lui, c'était pas évident, hein, ce rôle quand même. C'était pas facile, c'était pas... Parce que c'est quand même considéré comme une comédie. Donc, c'était pas évident du tout. Alors, en dehors de Kad Merad et Valérie Benguigui, on a Roland Giraud également. Guillaume Gallienne aussi, ouais, dans ce film. Et voilà, moi je trouvais que c'était pas mal au niveau de justement de cette problématique-là, du nom, qui ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas. Quelqu'un ne devrait pas être obligé comme ça de falsifier son nom, de changer son prénom. Ça ne devrait pas exister, ça. Absolument pas. Absolument pas. Enfin voilà, donc l'Italien. Moi je trouve que c'est un beau film.
Et donc voilà la sélection de films pour la semaine.
Oui. D'ailleurs, quand même, pour il était écrit sur l'affiche qu'on s'appelle Dino ou Mourad, on est tous égaux, surtout quand on s'appelle Dino. Voilà ce qu'il avait écrit sur le
oui.
sur l'affiche du film.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Ah oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Malheureusement. Mais oui. Il faudrait arriver à ce que ces choses-là n'existent plus. Peut-être un jour, quand même. Peut-être un jour, ce sera possible. De garder son nom, quel qu'il soit, et de ne pas, voilà, de ne pas être obligé de tricher. Bon. Espérons. En tout cas, voilà, bon ben écoute, je ne sais pas, on s'achemine peut-être vers une ouverture à partir du 15 décembre. Est-ce que les cinémas vont ouvrir? Est-ce que d'ici là, les décisions seront prises?
Là, je ne sais pas.
Il faut qu'on attende.
On ne sait pas du tout.
Mais bon. En attendant, Radio Entre Deux Mers, comme à chaque fois, remercie hein, tous les gens sur qui on a pharmacie, les hôpitaux, les ambulances, les aides à domicile, les personnels vétérinaires également, les personnels de grandes surfaces, les épiceries de village et de quartier, les éboueurs, les pompiers, le personnel de sécurité, les routiers également, les manutentionnaires, enfin tous ces gens grâce à qui on peut continuer quand même à se nourrir, hein, à faire des courses et à se nourrir. Maintenant, bon, il y a certains commerces non essentiels, ça s'appelle comme ça, ça fait un peu bizarre, mais bon, qui sont ouverts, peut-être sûrement à cause des fêtes, alors j'espère que ça va bien se passer pour eux. On a une pensée aussi pour ceux qui se dévouent depuis le début, depuis plusieurs mois, pour les voisins, pour les SDF, enfin pour quiconque a besoin d'aide, on est très, très admiratif et très reconnaissant par rapport à tous ces gens-là. Et puis maintenant, les familles séparées vont peut-être pouvoir se retrouver bientôt. En tout cas, on passe à eux, on espère, ainsi que les gens qui sont quand même un peu prisonniers dans des petits appartements, dans les grandes villes surtout. Et espérons que bientôt, ils pourront retrouver eux aussi. Une liberté de respirer, d'être, voilà, ma foi. Et puis un grand merci à tous nos auditeurs qui ont probablement respecté le confinement. Je suis sûre qu'ils le respectent. Moi, j'ai confiance en eux. Voilà. En tout cas, mes chéris, de toute façon, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Merci.